Vous écoutez le Serment d'Hippocrate, un podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé mais ne se trouvent pas en pharmacie. Ici, on s'intéresse à l'alimentation, au sommeil, à la méditation ou à l'activité physique. Tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. On y trouve des médecins, des professionnels de la santé, des experts, mais aussi monsieur et madame tout le monde, parce que la santé est souvent une aventure personnelle. Bienvenue au Serment d'Hippocrate, aujourd'hui j'accueille Stéphane Haskell, photojournaliste, auteur et réalisateur. Il a eu un parcours de santé assez intéressant, où il s'est remis, disons d'une blessure, mais tu vas nous expliquer ce que c'est, par le biais du yoga. Bonjour Stéphane et bienvenue.
Bonjour, salut Ben. Écoute, ravi d'être avec vous. J'en ai été un peu perturbé, figure-toi, comme on le fait en direct, c'était assez amusant. J'ai un nouveau projet en ce moment, mais on va revenir dessus, sur la communication animale. Et ce matin, j'étais à la SPA chercher un chien.
Donc il est avec moi,
il est un peu dur, turbulent, donc on peut peut-être être dérangé, mais ça fera un troisième larron en interview avec nous.
Pas de souci, on a déjà fait ça avec les canaries dans le fond.
Oui, voilà, il est. C'est presque une dizaine d'années, j'ai eu ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval, c'est une hernie discale paralysante en fait.
C'est arrivé comment?
En fait, c'est une hernie discale qui tourne mal et c'est un cas sur 10 000 ou 15 000, je ne sais plus. Mm-hmm. Et il faut être opéré en urgence parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se pisse dessus, quoi. C'est tout lâche.
Ouais.
Et en fait, le disque sort très, très loin dans la colonne et compresse tous les nerfs au niveau sacrum, sacré lombaire. Et ce qui fait qu'il faut être opéré. Voilà. Et j'ai été opéré dans la nuit en urgence. Et au réveil, on m'a dit, on ne sait pas si on était à temps ou pas.
Ah,
et en plus, je me suis réveillé comme un gros bébé avec des couches et une sonde urinaire.
Ouais.
Voilà. Donc ça a été la première, j'allais dire, opération. Il y en a une deuxième en urgence derrière parce que le disque a explosé dans le corps. Et ça s'est fragmenté, et du coup, il y a eu une brèche dans la dure-mère, qui est la poche par laquelle transite le liquide céphalo-rachidien. Ouais. Donc, je suis reparti au bloc, et c'est là où ça a été compliqué après. C'est pour ça qu'après, j'ai eu beaucoup de douleurs. Et ça a été très compliqué pour retrouver une autonomie.
Et donc, sorti de ces deux opérations, tu te retrouves dans quel état de mobilité?
En fait, au départ, quand j'étais à l'hôpital, les deux jambes sont cuites, j'allais dire.
Ouais.
Donc, ça, c'est très flippant. Bizarrement, j'allais dire, pendant une petite brève période de quelques jours, presque une semaine, je ne l'accepte pas. Donc, je ne suis pas en panique, vraiment. Ouais. Et bizarrement, je pense que c'est dans ces cas-là de gros trauma où on a une réaction qu'on ne peut pas prévoir parce qu'elle n'arrive que quand on a ce traumatisme violent. C'est-à-dire que soit on part en panique totale, donc le cerveau, j'allais dire, ne va pas soutenir l'information, ou il y a une espèce d'étonnante réaction de survie. Et quelque part, bizarrement, et je ne le dis vraiment pas pour frimer parce que ça s'est passé comme ça, et j'ai eu d'autres moments de gros plongeons dans des dépressions, mais je me suis dit que j'allais m'en sortir, bizarrement. Je ne m'y attendais pas. Donc après, c'est des traitements, tu es allongé dans une chambre d'hôpital, beaucoup de morphine. Je suis désolé pour le spectacle, mais je me suis toute la journée, quoi. J'ai une sonde, on est un peu légumes, un peu à l'état végétatif. Et là, effectivement, par contre, ce qui se passe, c'est que je me dis, tout de suite, je sens que ça va être long. Et je me dis, ça va être compliqué aussi par rapport à mon métier.
Ouais, parce qu'à ce moment-là, donc tu avais déjà fait de la réalisation. Ce n'est pas des trucs que tu as fait après.
Non, j'avais déjà réalisé. J'avais été parti en Inde réaliser un film sur Dominique Lapierre, qui a écrit « La cité de la joie ». J'avais fait une école de cinéma aux États-Unis quand je vivais à New York, j'avais fait un long métrage, donc c'était déjà quelque chose qui me passionnait.
Ouais, mais par contre, tu avais un métier, c'est vrai, où tu voyageais
ouais,
en tout cas.
Voyage, beaucoup, pas mal de crapahutage, et ça, c'est un métier, on doit être un peu toujours en action, en mouvement. Et là, effectivement, il y a une chose, c'est que la vision de la vie à tous les niveaux, professionnel évidemment, mais même émotionnel, relationnel, elle se coupe d'un coup. Et pour aller vite, en fait, si tu veux, en sortant de l'hôpital, je ne sais plus combien de temps je suis resté, parce que je crois que j'ai fait une espèce de blackout là-dessus. Ouais. J'étais à l'hôpital Henri Mondor, en plus c'est un hôpital où il y a des petits hélicoptères, parce qu'il y a tous les accidentés de la route.
Ouais.
Et les spectacles sont... Et c'est là aussi où j'ai vu d'abord, j'ai trouvé que les infirmières, l'autre, c'est pas ça. Mais moi, ils ont été formidables. Franchement, J'imagine le travail qu'ils peuvent faire parce que je peux te dire, c'est encore une fois, c'est pas ragoûtant, mais il fallait me nettoyer, il fallait m'aider, il fallait. Et ils ont été incroyables. Dans la chambre à côté de moi, il y a un mec, je ne sais pas ce qu'il avait, il avait une cicatrice autour du cerveau, donc je sais qu'il était dans un sale état. Et donc, déjà, il y a une espèce, on le voit, entre les. Qu'on a pu commencer à se voir, une entraide incroyable entre les gens. Et bref, je sors de là, je suis raccompagné, et donc, comme je suis totalement, totalement handicapé, je suis retourné chez ma mère. Donc, à plus de 40 ans, retourner chez ta mère avec des couches, je peux dire que c'est costaud.
Ouais.
Donc, j'avais l'impression d'être un retour. J'étais dans ma chambre d'ado. C'était un peu compliqué. Et là, pour aller vite, bon, j'ai beaucoup un kiné formidable qui est venu beaucoup m'aider parce que je ne pouvais pas faire grand-chose. Et puis, j'avais un périmètre de marche. Après, on a commencé à me soulever. Enfin, ça a été très long. Pour aller plus vite, après, je suis parti au bout de 6 mois, je crois. J'ai été envoyé dans un centre de rééducation à Granville. Donc, j'ai fait une grosse rééducation qui m'a aidé à marcher, à tenir debout, on va dire. Mais c'était épuisant et je prenais beaucoup, beaucoup de médicaments d'antidouleur. Et il y a une politique antidouleur en France qui est plutôt pas mal pour au début, j'allais dire. Mais après, on est juste enfermé dans une camisole chimique. Mmh. Parce qu'il m'avait donné une seringue comme ça avec de la kétamine dedans. Et ça, c'est quand même... on se retrouve vraiment prisonnier de cette dépendant, j'allais dire, de cette drogue pour la douleur. C'est la kétamine, c'est un anesthésiant pour chevaux.
Ouais, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est quand même quelque chose que tu as pris pendant un moment. Je suppose que tu as dû développer en plus une sorte d'accoutumance, non?
Oui, en fait, moi j'avais avant le syndrome, avant d'être amené en urgence à l'hôpital, j'avais moins une dépendance à l'alcool et aux médicaments. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais anesthésié toutes ces douleurs, tous ces traumatismes, tous les symptômes de la hernie discale qui étaient là.
Ouais.
Mais avec l'alcool et les médocs, forcément, j'anesthésiais tout. Donc, ouais. Quand je les ai arrêtés, 3 mois plus tard, tout a vraiment, ce que je dis souvent, implosé.
Ouais.
Donc, effectivement, on me retrouvait à la sortie de l'hôpital avec des antidouleurs de plus en plus violents. C'était pas une bonne nouvelle pour moi parce que je voulais surtout pas retomber dans cette dépendance qui est sournoise, qui est rapide et surtout quand on est dans la douleur, quand on gobe des antalgiques. Donc, j'ai fait très, très attention et ça n'a pas été facile.
Cette camisole chimique, comme tu l'appelles, est-ce que tu l'as vraiment perçue ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est quelque chose dont tu nous parles avec le recul ou est-ce que sur le coup, tu t'es rendu compte que tu étais un peu piégé dans ce truc-là ?
Ah oui, non, j'étais complètement... je voyais très bien, j'étais très lucide sur la dépendance. Ce que j'essayais de faire, en fait, le truc dans ces cas-là, quand on a une tendance, même juste une tendance à glisser très vite vers des comportements addictifs, c'est que je ne prenais que ce qu'il y avait sur la prescription du médecin, sur l'ordonnance. C'est-à-dire que je ne dépassais pas les doses qui étaient prescrites. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu dépasses les doses prescrites, tu bascules dans quelque chose de très dangereux. Donc, même si par moment j'avais envie de défoncer les murs tellement j'avais avec mon poing, tellement j'avais mal, j'attendais l'heure pour prendre la morphine, pour faire l'injection de kétamine, je faisais attention. Il faut garder cette boussole, c'est très important.
Ouais. Et donc, dans cet environnement-là, tu as fait une rencontre hein,
si j'ai Alors, compris. Après, donc, la suite, à la sortie de la rééducation fonctionnelle à Granville, je suis rentré à Paris et là, je me suis dit, il ne se passe pas grand-chose. Je crois qu'en tout, entre le moment après l'opération et ce moment-là dont tu parles, il s'est presque passé 2 ans.
Ouais.
Et là, je t'avoue qu'il y a eu un moment où je me suis dit, on va arrêter. On va arrêter. J'ai pensé au suicide très fort. Ce qui m'a arrêté, c'est d'abord un soutien extraordinaire d'amis.
Ouais.
Et ma chienne, c'est pour ça que j'avais une chienne que j'avais adoptée quelques mois avant mes opérations, qui a été à mes côtés, qui a été un des êtres qui m'a aidé à pas péter les plombs.
Ouais.
Et là, un jour, ce que j'ai souvent dit et ce que je dis dans mon bouquin, dans mon livre que j'ai écrit à ce sujet-là, c'est qu'un jour, je me suis mis à prier et je me suis vraiment mis à genoux, j'ai prié, j'ai demandé de l'aide. Et l'aide est arrivée, et je dis tout le temps, elle arrive toujours de là où on ne t'attend pas. Et elle est arrivée, c'était une grande blonde, aux yeux bleus, norvégienne. On pourrait dire, c'est le poster de Playboy qui s'est détaché de ma chambre d'ado quand tellement j'étais sous morphine, mais pas du tout. C'était cette femme incroyablement charismatique qui était professeure de yoga et qui m'a dit, écoute, vu ton état, c'est jouable, tu peux t'en sortir, mais il va falloir s'investir sur une période de 3 ans. et j'avais jamais fait de yoga dans ma vie. J'avais rien contre le yoga, j'étais pas comme certains qui ont un peu une image, oh là là, c'est un truc, c'est une secte, c'est pour les bobos, ça vient d'Inde, c'est bizarre. Non, non, j'étais juste pas intéressé par le yoga. Mais elle m'a convaincu en m'expliquant d'une manière assez détaillée comment elle pouvait m'aider, comment elle pouvait m'aider à me réapproprier mon corps et surtout mon mental. Et c'est la seule personne en les 2 ans où j'avais fait un peu tout ce qui était possible en centre antidouleur, médecin, j'avais tout vu, qui m'a redonné de l'espoir. Et là, je me suis dit, OK, je vais la suivre. Et donc, je suis parti en Allemagne dans un monastère zen. Un très bel endroit d'ailleurs, très, très, très rigide, très simple. Ça a été une initiation, une véritable initiation. Et là, j'ai commencé à sentir effectivement qu'il y avait une différence, qu'il y avait quelque chose qui se passait et que on pouvait s'en sortir. Et surtout, ce qui était fascinant avec elle, c'est qu'elle aidait, elle me montrait des films, elle aidait des enfants au Sri Lanka. Elle avait une association qui aidait les enfants au Sri Lanka qui avaient été traumatisés par le tsunami en 2004, qui avaient perdu leurs parents, leur maison. Et là, je me suis dit, waouh, le yoga, ça va plus loin que la simple salle de classe où on va, on fait nos exercices et on sort. Il y a quelque chose, j'allais dire, d'humain et qui touche notre cœur. Et ça m'a plu, ça m'a parlé tout de suite. Et je me suis senti, pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment en confiance et dans mon élément. Et en fait, quelque part, aujourd'hui, avec le recul, je suis quasiment convaincu que c'est quelque chose que j'avais toujours cherché, sans trouver le moyen de l'obtenir, mais de l'obtenir dans le sens de partir sur ce chemin. Et je pense que l'alcool, et comme pour beaucoup d'autres, les drogues, etc., c'est un moyen d'aller remplir un vide, et que le yoga, comme d'autres pratiques, nous permettent de remplir ce vide. Et ça, je l'ai senti très vite.
Ouais, ça a été plus du coup
Ah ouais,
qu'une
parce que
simple
je parlais
thérapie
du fond.
physique. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans tous les sports, d'ailleurs, toutes les activités physiques. Et à chaque fois que je me retrouve à parler avec des gens qui sont sportifs à haut niveau, bas niveau, tu retrouves ce truc-là. Parfois, ils ont juste commencé un petit peu comme toi en se disant, allez, tu vois, genre, je me
Ouais,
lance,
voilà.
je fais un truc, ça m'occupera ou.
Ouais.
Et derrière, en fait, je sais pas, t'as un moment où je pense que c'est un peu comme un oignon, tu enlèves différentes couches et tu trouves des nouveaux trucs
Voilà.
en dessous, tu vois.
La chose avec le yoga, évidemment, qui est différente du sport, c'est-à-dire que derrière, il y a une philosophie et il y a un enseignement, bon, qui est millénaire, hein, donc, mais c'est un enseignement qui, moi, me fascine parce que ça a traversé les siècles jusqu'à nous et c'est quand même pour moi, j'allais dire, une des pratiques qui reste le plus moderne pour notre société, qui est en mal de, voilà, qui est tout en questionnement, qui est tout en malaise. Et le yoga répond quand même assez bien à ces malaises et à nos questionnements. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'évidemment, le but ultime du yoga, c'est de calmer notre mental. C'est-à-dire, à part les postures, par la respiration, par beaucoup d'autres choses, c'est qu'on arrive à descendre. Que le petit hamster là-haut se calme. Quand le petit hamster se calme, bien sûr, ça aide le corps à se réparer. Et c'est ce que j'ai réalisé. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans le yoga par rapport au sport, c'est qu'il y a toute cette profondeur derrière d'introspection sur notre humanité et sur notre humanité à chacun. Et le yoga a une capacité extraordinaire, je trouve, je l'ai vu dans certains cours que j'ai faits, à faire ressortir. C'est machine à laver, hein, c'est un essorage à faire ressortir le meilleur et le pire, mais il faut que ça sorte parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on garde à l'intérieur de nous. Si on ne peut pas l'exprimer, c'est-à-dire que moi j'ai eu des cours où à la fin du cours j'étais en larmes, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais touché des choses qui étaient imprimées dans mon corps, ce qu'on appelle un corps émotionnel, et il fallait que ça s'exprime parce que plus je les gardais à l'intérieur de moi, plus ce sont des choses qui allaient, j'allais dire, gripper la machine. Et c'est ça, il faut lessiver, il faut lessiver. Il ne faut pas avoir peur de pleurer, il ne faut pas avoir peur de rire, il ne faut pas avoir peur de. Il faut aller justement là où il y a les peurs et les résistances et aller voir ce qu'il y a derrière. Et là, c'est intéressant.
J'ai un petit peu d'expérience avec le yoga, mais bon, clairement pas aussi poussé que toi. Mais la manière dont je l'ai un petit peu compris, et je le retrouve aussi dans d'autres pratiques, c'est que effectivement, c'est une activité qui est physique. Mais pour pouvoir l'accomplir, on va dire, pleinement, il faut une certaine présence mentale. Donc en fait, pour te reconnecter correctement avec ton corps, tu es obligé aussi de passer par la partie mentale parce que tout ça est lié.
Oui.
Donc c'est pour ça en fait que ça vient ensemble et que tu découvres en fait des
Il
choses un petit peu dans
faut...
ce processus, quoi.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un processus d'ancrage qui est très important. Et après, une fois qu'on a cet ancrage, moi, c'est ce qui me manquait. J'allais dire, c'est peut-être pour ça que j'ai eu ce syndrome qui était, je me suis retrouvé à m'uriner dessus, à me chier dessus pour me réancrer à la terre. Et donc, il y a cet ancrage pour après pouvoir justement s'ouvrir. Et c'est pour ça que dans l'image, dans un des grands symboles du yoga, c'est l'arbre. Et toute la philosophie du yoga est basée, toutes les branches du yoga, les 8 branches, les 8 pétales du yoga sont basées sur justement ce système d'ancrage et d'ouverture. Et ça, c'est vraiment très, très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent dans la pratique et qui disent, waouh, super, je vais rencontrer Bouddha, je vais avoir l'illumination, alors que ça passe par un ancrage. Et ça, c'est long. Et une fois qu'on a cet ancrage, on peut effectivement aller. Vers d'autres étapes qui sont des très belles étapes et qui sont en fait l'éveil, enfin en tout cas aller, en tout cas cheminer vers ça. Et ça, c'est vraiment c'est très très beau.
Et donc tu as par cette pratique, hein, non seulement est-ce que tu as découvert quelque chose, on va dire à l'intérieur de toi, mais tu as voulu donc aller, enfin, bon, tu as donc eu cette découverte un peu de ton corps, mais également de tout ce côté un peu communautaire peut-être, hein, enfin, je sais pas si c'est le bon mot,
Oui,
mais.
je pense surtout ce qui est intéressant, c'est de voir. Il y a une chose qui est étonnante aussi avec le yoga et qui me paraît assez évidente d'une certaine manière avec le recul, c'est que tu te fais du bien, si tu veux. Donc, en te faisant du bien et en ayant cette ouverture, parce que c'est beaucoup, ça passe par l'énergie du cœur. Beaucoup, c'est. Ma prof me disait toujours, vas-y avec le cœur, vas-y avec le cœur dans une posture. Donc, en ouvrant le cœur, on va se lier, j'allais dire, une certaine énergie au cœur des autres. Donc, il y a un lien qui se forme et ce lien, c'est-à-dire, c'est un lien de pacifique, c'est un lien. Justement d'échange. Et donc, il y a ce côté communauté qui fait sans doute de temps en temps peur aux gens parce que il y a ces larges communautés qui se mettent ensemble et ils font des sons étranges, des postures qui voilà. Mais c'est ça qui est formidable. Et quand je suis allé après, on va en parler avec le film dans certains endroits dans le monde, dans des bidonvilles, dans des hôpitaux, des prisons, le fait que les gens pratiquent ensemble relie les gens et fait annihile la violence entre les êtres. C'est vraiment un outil pacificateur, j'en suis plus que convaincu. C'est-à-dire que je l'ai vu, j'ai été sur le terrain, et voilà. Donc c'est oui, il y a un élan communautaire qui est important.
Justement, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ce que tu as fait derrière, en fait, comment tu as, enfin, on va dire comment tu as adapté ta profession à cette découverte. Mais est-ce que tu peux juste raconter un petit peu ton processus enfin, on va dire de santé, de récupération, en fait, parce que tu es quand même parti d'une mobilité très réduite.
Ouais, si tu veux, faut savoir une chose. Un, il n'y a pas de miracle. Deux, c'est un investissement. Et trois, j'allais dire, et on y arrive, on les rencontre, faut trouver les bons professeurs. C'est un peu ce qui fait mal à la pratique aujourd'hui. Il y a des espèces de diplômes de professeurs de yoga, j'allais dire, un peu pochette surprise. Tu vas sur Insta, tu vois des gonzesses bien gaulées avec des postures pas possibles. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, je ne veux pas faire de yoga parce que je ne peux pas faire ces postures. C'est des postures, mais je veux dire, il faut des années de yoga et encore, ça n'a pas un grand intérêt. Je pense qu'il faut rendre ce que le yoga, justement, soit accessible. Et donc, moi, ça a été d'abord donc 3 ans avec cette professeure de yoga. Ensuite, elle m'a aiguillé vers un centre à Paris qui s'appelle le centre Iyengar, dont je parle beaucoup dans mon livre et dans mon film, puisque j'ai rencontré le maître indien qui a inventé ce yoga, mais qui l'a surtout élaboré. Et là, elle m'a aiguillé vers ce centre à Paris. Et là, j'ai passé 5 ans. Donc, en tout, c'est 8 années de. Oh parce que quand tu as mal, ton corps est traumatisé, il prend des mauvaises postures. Et avec le yoga, on a essayé de rééquilibrer le sacrum, rééquilibrer la colonne, redonner de l'espace entre les vertèbres. Et c'est hyper douloureux parce que tous mes muscles, mes nerfs, des opérations avaient été endommagées, mais surtout, ils s'étaient mis dans des carcans de posture pour, et ils le font encore aujourd'hui, pour protéger le corps. Et donc, il faut, tu vas dire presque, c'est pas le mot évidemment, mais les déchirer, enfin les redresser. Il faut pas lâcher, c'est dur. Hein. Moi, j'ai lâché plusieurs fois. Hein. Je suis arrivé au yoga au pays de oui. Il y a eu des moments où j'ai détesté le yoga. J'en ai eu ras-le-bol, j'ai insulté mes profs, je voulais casser des trucs. Je veux dire, il y a eu des larmes, il y a eu tout.
Et comment est-ce que ça a été reçu, ça?
Ça a été canalisé, j'allais dire, par des profs qui sont, j'allais dire, j'ai vraiment eu cette chance, même si bon, il n'y a pas de chance en soi, mais j'ai eu surtout deux femmes qui m'ont accompagné. La première, donc, c'était Thérèse au centre en Allemagne et une autre femme, Corinne Biria, au centre Yongar à Paris. Et elles n'ont pas fait de cadeau parce que j'ai essayé de trouver des moyens pour justement peut-être pas aller dans une posture qui me faisait mal ou peut-être pas faire ci, faire ça. Et en même temps, il y avait toujours une petite voix en moi qui me disait « Vas-y, retourne-y, vas-y, retourne-y. » Et j'y suis allé. Et c'est cette petite flamme qu'il faut garder éveillée en soi. Et on apprend aussi que l'idée, c'est d'accepter la maladie et de plus la combattre. Et quand j'ai compris ça, ça a changé ma vision de la maladie. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, tout va super bien, que je ne veux toujours pas courir, j'ai toujours la jambe droite que j'ai récupérée qu'à 30%. Donc, si tu veux, mais c'est voilà, cette posture grâce au yoga qu'on apprend à avoir qui change notre rapport à la maladie. C'est très important.
Et sur ce parcours-là, du coup, tu as eu envie, t'as eu envie de raconter des choses, en fait. Ouais.
Bah, si tu veux, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'aimais aussi dans ces cours de yoga, c'est qu'on n'était pas genre enfermé dans une espèce de ce qu'on peut avoir comme idée de sexe, c'est-à-dire que c'était sympa, on rigolait. Et le soir, elle montrait des films, des documentaires, et on partageait. Alors, il y avait des films sur, il y a un documentaire que j'adore qui s'appelle Giant Leap, qui est sur la musique, où il y a Peter Gabriel, il y a Brian Eno, tout ça. Donc, on en parlait sur les effets de la musique, sur notre corps, etc. Et puis, elle nous a montré un film sur le yoga que j'ai trouvé passionnant. Et j'ai eu une espèce d'envolée comme ça. Et je lui dis, moi aussi, je te promets, si je peux récupérer mes facultés physiques, assez pour faire un film, je ferai un film sur le yoga. Voilà. Donc, ça a été une promesse. Et quand j'ai fini mes 3 ans, je me suis dit, bon, il va falloir tenir cette promesse, comment on va faire. Et puis, encore une fois, ça n'a pas été facile, mais j'ai été aiguillé pour rencontrer les bonnes personnes. Et un jour, on a trouvé, j'ai écrit, j'ai rencontré les personnes. Et à un moment même, j'avais commencé le film avec une productrice, on s'est séparés parce qu'on n'avait pas la même vision. Elle voulait faire un film très sociétal sur le yoga. Le yoga vient d'Inde, les Beatles, Rishikesh, etc. Et j'ai dit non, j'ai pas envie d'aller interviewer le grand sage machin parce que les gens vont pas identifier. Et donc j'ai vraiment fait ce film, j'allais dire, pour moi qui connaissais rien au yoga, et c'est comme si je m'étais fait un film qui m'aurait donné envie d'aller vers la pratique. Ouais. Et pour ça, il faut y aller avec le cœur, il faut rencontrer les gens qui sont ce que j'appelle des passeurs, qui sont dans la pratique, qui enseignent avec le cœur et avec aussi surtout un niveau, j'allais dire pédagogique. Waouh! Voilà. Et j'ai eu la chance de pouvoir, encore une fois, être aiguillé pour rencontrer les bonnes personnes et puis jusqu'à rencontrer ce maître indien dont je pratique le yoga, Iyengar, dans son village pour ses 94 ans. Et je crois que j'étais un des derniers à l'interviewer. Et c'était passionnant pour moi de rencontrer l'homme qui avait élaboré ce yoga, qui, moi, était en train de me transformer. Voilà.
Et cette rencontre, est-ce que ça a été plus... Enfin, tu as vu ça comme une interview ou est-ce que ça a été plutôt... est-ce que c'était quelque chose de plus personnel?
Ça a été plus personnel. Et puis, de toute façon, je vais te dire un truc dans la vie. Dans le métier que je fais, j'ai eu aussi tout le temps rencontré des grands, que ce soit des grands réalisateurs comme Coppola ou des grands je ne sais quoi. De toute façon, les plus grands, c'est les plus sympas. Tous ceux qui sont un peu en train d'essayer de machin, dans tous les métiers, c'est incroyable. Mais même d'ailleurs chez les profs de yoga, aussi bien que chez les profs de je ne sais quoi, les plus grands, c'est les plus sympas, les plus humbles, les plus marrants, ils ne se prennent pas au sérieux. Et quand je rencontre Vekalas Iyengar, c'est un homme qui se marrait. Il était drôle, il était sympa. Alors, même s'il enseigne avec une méthode extrêmement stricte, et ça, c'est vraiment, par moments, ça me saoulait un peu, il avait un humour fou. Et j'étais surtout très impressionné de rencontrer un homme dans son petit village, tu sais, c'est un espèce de village paumé à côté de Bangalore, dans le sud de l'Inde. Et ce type de ce petit village, il est devenu un des grands maîtres de yoga et a fait rayonner le yoga dans le monde entier. Mmh. La Russie, au Japon, voilà. Et il m'a raconté, quand il est arrivé dans les années 50, 60 en Occident, qu'il a subi beaucoup de racisme parce qu'il était indien et qu'on le prenait pour un noir. Quand, aux États-Unis, on lui disait, vous allez aux chiottes qui sont réservées pour les Noirs, vous n'allez pas chez les Blancs. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme et qui a fait rayonner le yoga à travers le monde et qui a permis à des milliers de personnes de retrouver leur physique déjà et retrouver leur j'allais dire leur joie derrière. C'est important.
C'est quelque
que ce
chose
soit dans la joie.
C'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé dans l'émission, en fait, la notion de reconnexion au corps, en fait. Et beaucoup des invités ou des gens, en tout cas, dont on a pu parler ici, c'est cette notion, en fait, vraiment de se retrouver, tu sais. On a tendance à vivre deux vies un peu distinctes, c'est-à-dire que t'as un corps et un cerveau, et en fait, il y en a juste un qui transporte l'autre. Et le fait de vraiment faire le lien entre les deux, en fait, c'est un peu ce que tu décris, non?
Oui, c'est un peu ce que je décris. Écoute, c'est le principe du yoga, si tu veux, puisque le yoga, on le sait, bon, voilà, ça vient du mot yuge. En fait, c'est l'union. On va simplifier. Ça veut dire union du corps et du mental. Et je pense que c'est plus que ça. On apprend qu'on commence dans cette. On vit tellement, tu sais, dissocié. On est dans notre mental tout le temps. Et le corps, lui, il suit. Et il prend. Et un jour, il dit stop. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, arriver par une pratique comme le yoga à mettre les deux en harmonie, j'allais dire, en relation, c'est-à-dire avoir un flux d'énergie qui monte et qui descend, qui irrigue le cerveau, qui irrigue le corps. Les maladies, elles apparaissent quand l'énergie se bloque dans le corps, que ce soit une grippe ou un cancer. Et donc, d'arriver à irriguer le cerveau, irriguer le corps, à faire monter et descendre ces énergies, à les faire circuler, à prendre possession de chaque millimètre de son corps, c'est extraordinaire.
Ouais.
Et c'est ça qui fait qu'effectivement, il y ait ce lien. Et c'est très difficile de garder le lien. Et ma prof m'avait dit, ce qui est important, c'est que quand tu sors du monastère où j'étais, quand tu rentres dans ta vie quotidienne, que ce que je t'ai appris, ta manière, le yoga, c'est la manière dont tu es chez toi, la manière dont tu es dans ta vie, la manière dont tu parles aux gens, la manière dont tu ouvres la portière de ta voiture. Fais les choses dans la conscience de l'acte et du geste. C'est super dur. Mais plus on arrive à le faire, plus on va être dans un état, j'allais dire, de légèreté. C'est vraiment ça. C'est étonnant.
Et ça, c'est quelque chose que du coup, tu as envie de partager. Et donc,
tu
as fait les livres, les films.
Voilà, donc j'ai décidé de faire un film sur le yoga. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé les bons partenaires assez vite. J'ai pu donc trouver les financements, partir en tournage. Donc, il y a eu, j'ai vraiment, là, j'ai été avec ce qu'on nous apprend le yoga, j'ai écouté mon intuition. Et j'ai rencontré cet homme qui a la sclérose en plaques à Los Angeles. Lui, on lui avait dit à 20 ans, c'est fini. Il y en a 80, plus de 80 aujourd'hui.
Ouais.
Donc, c'était intéressant parce qu'il fait un truc incroyable, c'est-à-dire qu'il a une fondation pour la sclérose en plaques à Los Angeles. Et ce qu'il fait avec des gens qui sont paralysés jusque-là, hein. Donc, c'est ça aussi le yoga. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont paralysés jusque-là et qui font du yoga. Le yoga, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est pas d'aller mettre son petit doigt de pied derrière l'oreille.
Ouais.
C'est vraiment un état d'être. Et ce qu'il fait, lui, est extraordinaire. Après, effectivement, j'ai pu aller dans une prison, voir des mecs qui sont sur le couloir de la mort qui pratiquent. Puis, il y a eu cette femme incroyable qui est partie new-yorkaise, qui est partie s'installer à Nairobi, au Kenya, dans les écoles, au Maasai, dans les prisons pour femmes qui ont le sida. Voilà, après j'ai et donc si tu veux au départ, donc il y a eu, c'était un film et c'est drôle parce que personne en voulait de ce film, donc je me suis retrouvé à la fin du compte en montage et j'arrivais pas à le vendre, donc je me suis dit tant pis, on va quand même le monter. Et il se trouve qu'on a eu quand même réussi à avoir un accord avec une chaîne, c'était amusant d'ailleurs, la chaîne parlementaire,
ouais,
qui a pris le film, et donc c'était un 52 minutes et le film a cartonné, c'est-à-dire qu'il a fait presque 1 million en audience. Il y a eu vraiment un bouche-à-oreille extraordinaire. Et 2 ans plus tard, une femme qui dirige une boîte de distribution qui s'appelle 7e Factory est venue me voir en disant « Mais tu ne veux pas aller plus loin dans ton film ?» Et je dis « Si, j'ai des rushs et je veux repartir, etc. » Donc, on a retrouvé de l'argent. Et je suis reparti à ce moment-là. Là, je voulais aller en Israël et en Palestine.
Ouais.
Hélas, j'ai pas réussi. Je devais aller à Gaza parce qu'il y a un programme de yoga et de méditation que fait un docteur américain extraordinaire, et Mind Body Institute, c'est génial. Et on n'a pas pu rentrer. On est arrivé devant Gaza et on n'a pas pu rentrer parce que c'était pile poil au moment où l'autre abruti avait déplacé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, c'était le bordel. Voilà, ouais. Merci Trump. Et il faudrait foutre au yoga à lui. Et donc, voilà. Mais j'ai rencontré une Palestinienne extraordinaire qui pratiquait avec des Juifs. Ouais. Et j'ai été aussi dans la communauté ultra-orthodoxe pour voir aussi comment... ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette pratique a réussi à s'infiltrer absolument partout. Et les bienfaits. Voilà, la dernière partie qui était intéressante pour moi, c'était d'aller tourner dans une école en France où j'ai été près de, au nord de Marseille.
Ouais.
Là, pareil, j'ai vu les enfants, le bien que ça leur fait. Ils sont concentrés, ils sont moins violents entre eux. Puis c'est des gosses qui ont des familles dures. Il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de violence. Et les mômes, grâce au yoga, je sais pas, ils rentrent dans leur bulle de protection. C'est... Voilà, donc j'ai filmé ça et on est sorti de ce tournage et je me suis dit waouh. Et c'est amusant parce que dans ce processus, à un moment, les producteurs m'ont dit mais c'est très bien, c'est très beau tout ça, mais le film manque, surtout pour un film, j'allais dire cinéma, pour une sortie en salle, manque de structure narrative. Et il me dit il faudrait que tu mettes ton histoire. Voilà, et c'est comme ça que c'est venu parce qu'au départ, moi je voulais faire un film sur le yoga, je ne voulais pas du tout parler de ma pomme, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai réfléchi et il y avait une phrase de ma prof Thérèse qui m'avait dit si un jour tu peux, si ton expérience, elle m'avait demandé d'écrire des carnets, si ton expérience peut en bénéficier même qu'une seule personne, à ce moment il faut que tu dises oui, que tu le fasses.
Ouais.
Donc je me suis rappelé de cette phrase qu'elle m'avait dite dans le monastère en Allemagne. J'ai retrouvé des moments de mon passage à Granville. Donc et j'ai tout mis dans le film et en essayant de, voilà, de faire quelque chose qui tienne la route. Voilà, ouais. comment est né ce film qui, on cherchait un titre pour le film et c'est le, je veux dire, le mécène du film, François Pinault, qui a trouvé le titre Debout. Et quand on m'a demandé ce qu'on appelle un peu une baseline, on va dire, je me suis rappelé de cette phrase qu'on m'avait dit un moine trappiste un jour, qui est magnifique, qui résume beaucoup, beaucoup de choses, qui m'avait dit tomber est humain, se relever est divin.
Ouais, c'est très joli.
Voilà.
Ça.
Voilà, j'ai trouvé que c'était. D'ailleurs, c'est au début de mon livre, La Respire. Je l'ai mis au début du livre parce que j'ai trouvé que ça résout tellement, tellement de choses.
Ouais.
Voilà l'aventure.
Le fait de raconter un petit peu ton histoire comme ça, c'est se mettre un petit peu à nu, ça n'a pas été. Ouais. Est-ce que tu as eu l'impression de revivre un peu les moments difficiles à ce moment-là?
Un peu. Et en même temps, j'ai senti que plus. Finalement, en écrivant le livre, parce qu'en fait, quand le film est sorti aussi en TV, j'ai un éditeur qui est venu me voir, Michel Lafon, qui m'a demandé de raconter si j'étais prêt à aller plus loin. Et j'ai dit OK, parce que, encore une fois, ça ne venait pas de moi. Je n'étais pas là en train de dire « Regardez ce qui m'est arrivé, c'est horrible. Regardez comme je suis beau et fort. » J'ai voulu le faire, ce n'est pas venu de moi. Et quand c'est venu de l'extérieur, je me suis dit « C'est qu'il y a une raison, il faut le faire. » Et j'ai essayé le mieux possible d'être dans une, comment te dire, une narration, pas basculer dans le côté victime, dans lequel j'ai été longtemps, parce que quand on souffre, on peut passer, basculer dans le côté victime, ni dans le côté super-héros, regardez comme je suis beau et fort. Il fallait que ce soit... Et le yoga m'a aidé dans cette juste balance d'écriture. Et je pense que c'était important. Et j'ai surtout réalisé une chose, c'est que l'identification est tellement énorme que ça a aidé beaucoup de gens. Et moi, je me rappelle, quand j'étais à l'hôpital, je ne voulais lire que des films et voir que des livres et voir des films qui racontent des miracles. Quoi, les gens s'en sortent. Et il y avait une critique à un moment de la sortie du film, qui c'était première, qui avait dit « Ce film est trop good feeling, trop lissé. » Eh bien, tant mieux, parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions. Et c'était important, du coup, d'y mettre ma pomme. Parce que du coup, je pense que ça a aidé certaines personnes à se dire bah, « si lui peut y arriver, je peux peut-être y arriver ».
Ouais. Et je pense que c'est ça qui est important dans ce genre de témoignage, justement.
Oui, je pense aussi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je pense que c'est bien. Il y a 3 ans, 4 ans, j'ai fait une émission avec Frédéric Lopez qui s'appelait « Mille et une vies ». Et j'y ai participé aussi parce que je me suis dit que c'était super, qu'il y avait des gens dedans qui avaient traversé aussi des phases très violentes dans leur vie et qui prenaient le temps… de le partager et d'offrir leurs expériences aux gens. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où on est bombardé, c'est fatigant. Quoi. Là, on l'a vu avec le Covid, quoi. C'est bon. Quoi. Allons-y vers les solutions, allons vers là où les choses sont positives, au lieu de nous annoncer des catastrophes toujours. Et les gens ont besoin, je suis convaincu que le public a besoin de films j'allais dire, qui donne des solutions, au lieu de films catastrophes, où la Terre va exploser, le climat, blablabla. Ouais, voyons l'autre côté aussi.
Ouais, il y avait, ça me fait penser à une citation que j'ai, qui m'est toujours, qui est toujours restée avec moi. C'est, je la paraphrase, hein, mais qui était toujours de dire, dans les pires situations, en fait, cherche les gens qui aident. Tu vois, dans les moments les plus catastrophiques, il y a toujours, regarde un peu autour de toi. Tu vas peut-être voir en fait la misère se développer, mais il y a toujours des gens qui essayent de faire quelque chose et qui essayent d'aider les autres.
Ouais, c'est essentiel. C'est fatigant de toujours. J'allais dire, on est dans un système quasiment qui encense les annonceurs de mauvaises nouvelles, quoi. C'est un truc de dingue. Mmh. Voilà. Et que ceux qui bousculent un peu sont presque muselés, j'allais dire, et que ça dérange. Et donc, pouvoir, moi, à mon niveau, participer à, je dirais, à la diffusion de ces bonnes nouvelles. Porté par le yoga, porté par ce que j'appelle tous ces passeurs, ceux qui sont dans le film, et il y en a d'autres. Hein. J'en compte. On a créé une association avec une amie professeure de yoga qui s'appelle Indra, qui va amener des thérapies, différentes thérapies, hein, aussi bien l'équithérapie que la sophrologie, que la naturopathie, dans les écoles, les EHPAD, les hôpitaux. Et j'ai rencontré beaucoup de bénévoles qui sont extraordinaires, qui ont donné des cours dans les prisons. Voilà. Donc il y a une communauté qui existe. Et qui est extrêmement courageuse, qui ils essaient de faire bouger les choses dans les écoles. Les professeurs qui donnent des cours aux enfants dans les écoles, c'est courageux, hein, parce que l'éducation nationale, ils ont dit OK depuis 2018, mais si ce ne sont pas des gens qui sont investis, ça ne se passe pas. Et c'est compliqué. C'est compliqué.
Cette démarche, elle t'a valu quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, ouais. D'être nommé ambassadeur de bonne volonté. J'adore le titre, mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
Oui, c'est assez drôle, je ne connaissais pas. En fait, c'est drôle parce qu'on a fait, on a organisé une soirée avec l'ambassade de l'Inde à l'UNESCO, où donc on a montré le film, où il y a eu une conférence autour du yoga, et surtout yoga et santé. Ce qui m'intéressait beaucoup, avec un homme qui dirige aussi le centre Iyengar, et avec sa femme Corinne, c'est Faik Birya, qui a pour moi un puits de philosophie et aussi d'information, j'allais dire, presque médicale, c'est sur le yoga, ce qui est absolument essentiel. Bref, il avait fait une conférence à ce sujet, donc sur un peu, j'allais dire, le yoga et la santé. Et à la sortie de ça, on m'avait demandé d'être ce qu'ils ont à l'UNESCO, ambassadeur de bonne volonté. Donc, il y a plein de thèmes différents, etc. Et donc, je suis devenu ambassadeur de bonne volonté pour le yoga. Et quand je leur ai demandé, j'aurais dit, mais pourquoi moi ? Parce qu'il y a des gens qui sont bien plus, comment dirais-je, dans la pratique, en Inde ou ailleurs, bien plus expérimentés. Et ils m'ont dit, non, ce qui est intéressant, justement, c'est quelque part, vous êtes un peu monsieur tout le monde qui découvre le yoga. Et donc, vous êtes un très bon messager en étant justement ce côté occidental qui découvre plutôt que, j'allais dire, un jeune yogi indien qui serait beaucoup plus, j'allais dire, incarné dans le yoga que moi. Voilà, donc et j'ai accepté parce que je trouvais que c'est une mission. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre. Et c'est ça qui est important. Je ne suis pas prof, hein, j'en ai pas la vocation, et j'en ai pas la technique, mais je souhaite pouvoir transmettre. Et là, je prépare un autre film sur le son. C'est une odyssée du son à travers notre planète. Et je vais faire redécouvrir notre planète. Et notre état d'homme et notre relation avec la nature par le son. Donc, c'est une grosse odyssée. Et voilà. Donc, j'ai envie de continuer sur cette voie. Voilà.
C'est un projet qui est prévu pour quand, ça ?
Ah, tu sais, ça, c'est un truc quand tu commences dans le cinéma, quand tu commences à écrire. Et le moment où tu écris et que le moment où le film sort, il peut se passer 3 ans. Donc, j'espère que dans 3 ans, il sera présent.
D'accord.
Parce que je peux dire que c'est une sacrée, sacrée épopée. Et je suis en train de l'écrire en ce moment avec un super scénariste qui a écrit La Marche de l'Empereur, Michel Fessler. Et on a écrit ça ensemble. Et c'est un sacré projet, c'est super ambitieux. Et en même temps, tu sais, Tesla et Einstein disaient tout est fréquence, tout est vibration. Et c'est intéressant de voir à quel point dans notre monde, même juste notre planète, sans parler de l'univers des planètes, à quel point tout est relié par la fréquence et la vibration. Et c'est ce qui m'intéresse, ce que j'ai découvert d'ailleurs par le yoga, puisqu'en fait, tu réveilles et tu augmentes l'électromagnétisme de ton cœur, qui lui-même est 40 fois supérieur à celui du cerveau. Donc, t'imagines l'impact que l'on a les uns sur les autres, ce que la Terre a comme impact sur nous en tant qu'être physiologiquement humain. Et c'est ça que je vais amener le public à découvrir.
Ouais, puis c'est vrai que le yoga, malgré sa présence millénaire, aujourd'hui, quand c'est étudié, on découvre beaucoup de choses en fait hein, sur le fonctionnement du corps humain qui sort un petit peu du contexte médical traditionnel. Enfin,
Oui.
ces notions de vibration, par exemple, dont tu parles, enfin, sont assez intéressantes quelque part. Enfin, bon, ça mériterait une conversation
Oui,
d'une
on pourrait
heure.
faire toute une émission là-dessus. J'en ai fait une. Non, mais tu sais ce qui est intéressant, je trouve, aujourd'hui, enfin, pour partir en finir en beauté, ce qui est génial, c'est que les médecines les plus avancées en neurosciences, en quantique, en épigénétique, sont toutes en train de prouver que toutes ces médecines, je parle du yoga comme médecine aussi, millénaire, alternative, holistique, on donne tous les noms qu'on veut, sont efficace. On le prouve aujourd'hui. Donc on peut plus, j'allais dire, on n'a plus le temps de dire gna, ça marche pas, il faut montrer que les cellules ceci. Non, on sait, c'est prouvé, c'est des prix Nobel, et pour moi la médecine du futur, c'est cette médecine, c'est-à-dire notre médecine allopathique, qui rejoignent la médecine, j'allais dire les médecines millénaires, qu'elles soient chinoises, indiennes, parce que là on a une médecine merveilleuse. On a une médecine intelligente, j'allais dire. Au lieu de dire, j'ai mal, je prends un médicament. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est, j'imagine, passé pour toi. Celui qui te soignait, c'était le docteur. On ne te disait pas, tu as les outils à l'intérieur de toi pour te soigner. On ne t'en a jamais dit ça. Donc, tu vas chez le docteur, tu prends le médicament, c'est comme ça. Quand on réalise qu'on a les outils, et que non seulement les outils, on les a à l'intérieur de nous, mais qu'ils existent autour de nous, dans notre environnement, dans la nature, et qu'on a tous ces moyens pour y accéder, voilà, et qu'on puisse relier ces deux médecines, là on a des belles solutions devant nous.
Bah, et puis aussi que même notre médecine occidentale, on a tendance à oublier en fait qu'on l'a développée à partir d'une médecine enfin
Là,
centenaire, millénaire.
viennent de la nature, hein, les
Bah
opiacés, tout
oui.
cela vient de la nature. Et donc arriver à moi, tu sais, j'ai surtout à un moment, donc ma prof s'est installée à Bali, celle qui m'a enseigné en Allemagne. Et à un moment, elle m'a demandé de venir à Bali et j'ai détoxé de toutes les saloperies que je prenais depuis des années et tous les antidouleurs que je prenais depuis pas mal de temps à l'époque, ça faisait 5 ou 6 ans. J'étais vraiment camé jusqu'à la moelle. Et on a fait le détox. Donc, je suis descendu. Donc, j'ai pratiqué beaucoup de yoga. Je suis descendu, j'ai fait une détox aussi alimentaire. Je suis passé à des jus, je suis passé à des médicaments, j'allais dire naturels. Et je suis tombé. Et c'est là que j'ai commencé à pouvoir revivre et à descendre de 70% tous les médicaments chimiquement qui m'empoisonnaient depuis longtemps. Et donc j'ai vu que c'était possible. C'est douloureux parce que le corps est complètement imprégné chimiquement, et même le cerveau, le mental. Donc il faut une vraie détox mentale et physique. Et ça, mais c'est jouable.
Oui, et c'est là que tu découvres la plasticité du corps, en fait.
Voilà. Voilà, donc écoute, le film est sorti l'année dernière, en avril. Il est sorti, il a eu un beau succès. Là, il est sorti au Brésil, il est sorti en Pologne, il est sorti en Allemagne, dans 6 pays. Je pense qu'à la rentrée, les conférences vont reprendre. Je dois aller le montrer dans une école, dans une prison à nouveau. Donc, je suis content parce que voilà, on peut continuer à l'accompagner et entrer en contact avec le public et échanger.
Justement, est-ce que tu sais là maintenant où seront peut-être les prochaines projections pour des gens qui seront intéressés?
Alors oui. Alors le truc, c'est que il y a une projection dans un lycée à Clichy qui aura lieu fin octobre, mais j'ai pas le nom avec moi. Donc là, on va le faire pour des élèves, donc ça c'est super. Et je sais que j'ai deux autres choses, dont un festival du yoga à Megève où je vais aller montrer le film et accompagner. Et ça, le festival a lieu le 11 et 12 septembre à Megève, un festival de yoga. Et là, je vais accompagner le film. Je pense que d'autres choses vont reprendre à fur et à mesure qu'on va avoir le droit de Voilà, de se réunir à plus de 10 ou plus de 100, je sais pas, on va voir.
Oui, bien sûr. Bah, je mettrai quand même l'info pour le 11 et 12 septembre.
Voilà,
Après,
exactement.
en tout cas, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent découvrir son histoire, bah, y a ton livre déjà.
Bah, il y a le livre, oui, Respire chez Michel Lafon. Le film, on le trouve, et souvent on me l'a demandé, donc je le dis là parce que beaucoup de gens m'ont demandé où on pouvait le trouver. Il y a un site qui s'appelle universciné.com, et sur le site universciné.com, on peut louer le film. Ouais, c'est celui. Il est aussi en VOD sur Orange, mais je sais que là, c'est ce qu'il y a sans doute peut-être de plus pratique pour tout le monde. voilà, si on a envie de le voir.
Ça marche, bah, je ferai un lien vers ça.
Bah, c'est sympa, oui, oui, n'hésite pas, parce que voilà, à un moment, j'avais essayé, mais c'était compliqué de qu'il soit en ligne gratuitement. Et il y a trop d'intervenants après, financiers et tout, donc c'était compliqué. Bon, là, il coûte 3,99€, donc je me suis dit, ça va.
Ouais. Ça voilà. Va, c'est abordable.
C'est abordable,
surtout ouais, qu'on ne peut pas trop aller dans les salles de ciné ces temps-ci. Donc,
voilà, donc bon, voilà.
Bah, super, bah, merci beaucoup Stéphane d'être venu te raconter ton histoire.
Moi j'ai beaucoup parlé, mais comme j'ai l'habitude maintenant de l'enchaîner.
Moi, je te rassure, hein, les gens sont là pour t'écouter, toi, pas moi.
Oh, bah, génial. Okay.
J'ai mon propre épisode spécial où j'ai parlé, donc c'est bon.
Bon, bah écoute, merci beaucoup.
Merci d'avoir pris le temps.
Ouais, et puis tu me diras quand tu le mets en ligne et tout, comme ça je communiquerai dessus aussi un peu.
Ouais, avec plaisir. Bah super.
Déroule ton matelas, sois curieux.
Merci en tout cas.
Merci beaucoup. À bientôt.
L'épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Le Serment d'Hippocrite prend une pause estivale et reviendra le 5 septembre. Pas de sortie d'épisode d'ici là, mais ce ne seront pas vraiment des vacances pour moi, car je vais continuer les enregistrements avec toute une série de super invités pour repartir de plus belle en septembre. Je vais aussi profiter de ce petit répit pour lancer un podcast anglophone, The Body Connection, qui va lui aussi traiter de la santé, mais exclusivement en anglais, car étant anglophone, il y a beaucoup de personnes que je voudrais pouvoir inviter, mais qui ne parlent pas français. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le compte Instagram Serment d'Hippocrite ou la page Facebook Le Serment d'Hippocrite pour être informé de l'avancée du projet. Merci pour votre temps, bon été, bonnes vacances, et à bientôt.